Le magazine Femina de VOA Afrique.
Les femmes et les jeunes sont-ils suffisamment engagés dans la vie politique et sociale? Et ont-ils la volonté d'apporter un grand changement? C'est la question qui vous a été posée, chères auditrices, chers auditeurs, sur le Facebook de VOA Afrique. J'espère que vous allez bien, Nathalie Barge, pour un débat sur cette question avec trois invités ici dans le studio 13 de La Voix de l'Amérique. Vanessa Metou, juriste spécialisée en droit pénal international, chargée des questions juridiques au sein du Conseil national de la jeunesse de la République du Congo, le CNJ Congo. Merci d'être avec nous.
Merci.
Hermion Judicaël Dokoui, gestionnaire de projet au ministère de l'Enseignement supérieur au Bénin, en poste à l'université d'Abomey-Calavi, où vous gérez des programmes universitaires, notamment avec la coopération américaine. Merci beaucoup d'être avec nous aussi.
C'est moi.
Et Noël Carl Lebonzo, secrétaire à la jeunesse et à la communication de la communauté Congo-Brazza de la région métropolitaine de Washington. Un grand merci de vous avoir. Donc vraiment des invités riches en émotions parce que nous avons dans le lot de Yali, n'est-ce pas? De Yali.
Pas Yali. Hein,
oui, de Yali. vous en savez quelque chose,
c'est
n'est-ce
évident.
Pas? Voilà, parce que vous êtes béninois.
Je suis béninois.
Voilà, donc Vanessa et Hermion Judicaël, vous êtes deux Yali, donc 2016, hein, le fameux programme de Barack Obama pour le leadership africain, hein, le jeune leadership africain, avec une petite nouveauté peut-être cette année. L'âge a été monté à 35 ans, on les prenait un petit peu jeunes avant et c'était un petit peu trop limité, sachant que, bon, à 35 ans, on est encore jeune finalement, n'est-ce pas?
Voilà.
Donc Vanessa, j'ai trouvé un article sur internet dans la presse africaine qui parle de vous. Le titre était « Éducation civique, la jeunesse congolaise est très passive ». Ça, c'est ce que vous estimez, Vanessa Metou.
Oui.
Donc c'était lors d'un événement en avril 2016.
Mm-hmm.
Vous dites, alors c'était « Jeunesse congolaise et citoyenneté active ». Alors c'était devant des étudiants de la faculté de droit de l'Université internationale de Brazzaville. Et vous dites que la jeunesse a tendance à être désengagée. Vous avez dit, je vous cite, hein,
«
Dans l'ensemble, la jeunesse congolaise est très passive. Nous sentons un engouement d'une certaine couche de la jeunesse pour des mouvements politiques. C'est juste par un effet de foule. Les jeunes ne sont pas conscients de leur engagement. Ils le font juste par fanatisme, par affiliation ou par profit. »
Oui.
Alors, commentez-nous ce propos.
D'accord. En fait, la jeunesse congolaise compose la majeure partie de la population. Mais il y a un constat, c'est que cette jeunesse n'exerce pas sa citoyenneté active. Et justement, cette conférence avait pour objet d'interpeller les jeunes pour qu'ils puissent s'éveiller, en fait, et être des citoyens engagés, parce que nous avons, lors de cette activité, placé la citoyenneté active sous trois dimensions, le volet social, le volet politique et le volet économique. En tant que jeune, je dois contribuer à l'émergence économique de mon pays en étant créateur d'emplois ou en contribuant à l'essor économique. Ça, c'est un devoir et c'est un rôle que le jeune doit jouer au sein de sa société en tant que citoyen actif, mais qu'il n'exerce pas souvent. Il y avait le volet social, notamment avec l'aspect éducation, et le volet politique sur lequel j'ai commenté tel que vous l'avez cité précédemment, c'est que au Congo, les jeunes sont plus engagés en politique. Parce que justement, ils veulent également avoir leur part du gâteau, si je peux m'exprimer ainsi. Mm-hmm. Mais c'est très souvent, nombreux ignorent même, ils remplissent des partis politiques qui naissent du jour au lendemain, mais ils n'ont pas de réelle idéologie, de réelle vision et aucune aspiration ou aucun objectif politique à atteindre. Donc c'est à se demander s'ils y vont juste parce que c'est le mouvement du moment, sans réellement comprendre leur engagement politique. C'est ce qu'on essaie de décrire en leur invitant à laisser de côté l'engagement politique juste par effet de foule. Mais si on veut réellement être engagé politiquement, il faudrait qu'on comprenne c'est quoi la politique et quels sont les enjeux, quel est l'impact qu'on veut apporter autour de sa communauté en s'engageant dans une carrière politique. Mmh. Et donc, c'est les inviter plutôt à également voir la dimension sociale de l'engagement citoyen et la dimension économique au-delà de la dimension politique.
Noël, les jeunes dans la politique, on sait qu'en Afrique, ils sont très souvent récupérés par les politiciens. Ils se retrouvent très souvent dans la rue à faire des manifestations. Il y a très souvent des violences et il y a très souvent des victimes. Est-ce que c'est ça l'engagement citoyen ?
Non, je pense que malheureusement, les jeunes en Afrique ne comprennent pas leur engagement dans la politique. Je pense que les jeunes doivent essayer de choisir des partis politiques ou bien de s'engager en politique par rapport à une idéologie ou par rapport aux convictions et non par le suivisme. Ils doivent essayer d'aider leur communauté, d'aider leur pays à aller de l'avant ou bien de contribuer positivement pour le développement de leur pays.
Hermion, est-ce que vous, au Bénin, vous faites partie d'un CNJ, du CNJ du Bénin ?
Non. Malheureusement, non.
Pas encore.
Et ça ne va peut-être pas arriver.
Ça va peut-être pas arriver.
Non. Parce que mes convictions sur tout ce qui a été dit jusque-là par mes collègues sont assez claires.
Okay.
L'engagement des jeunes doit être promu de la façon la plus saine et la plus positive possible. Mm-hmm. Il faut pouvoir apprendre à nos jeunes que s'engager dans la société, s'engager dans leur communauté, c'est important et ça va au-delà de partis politiques. Ça va au-delà de regroupements qui, quelquefois, et je m'en excuse auprès de Vanessa qui est membre d'un regroupement, sont pour la plupart récupérés par des politiques. Donc, pour moi, s'engager dans la société, ça va au-delà d'une représentation de jeunes, d'une commission ou d'un cercle. Donc, il faut pouvoir apprendre à nos jeunes à s'engager dans la société au jour le jour, dans leur communauté. Le changement part de vos communautés de base, de ce que vous pouvez apporter à
Absolument.
Vos communautés de façon personnelle.
Mais c'est quand même bien que ça existe déjà, ces mouvements, parce que
évidemment.
Ça donne de la voix aux jeunes.
Évidemment,
quand même.
Ça donne de la voix aux jeunes.
Ouais.
Chez moi, je vais peut-être parler du Bénin de façon particulière.
Bien sûr.
L'engagement des jeunes est encore, on va dire qu'il est naissant.
Okay.
Parce qu'on a passé 10 ans sous le régime Yaïbouni, qui n'était peut-être pas des plus intéressants, des plus fameux. Et avec le temps, chez nous, un jeune qui se retrouve en politique ou se retrouve dans un cercle de jeunes à défendre de cas sociaux ou à parler de situations actuelles politiques, pour la plupart, le point de vue qu'on en a, c'est un jeune vendu. C'est un jeune qui, a priori, est sous la coupole d'un politique. Donc l'engagement de jeunes chez nous n'est pas encore très promu. Parce que dès que vous êtes engagé, pour les autres, ça veut dire que vous êtes vendu politiquement. Ça veut dire que vous êtes poussé par un politique. Donc, peu à peu maintenant que voilà, l'engagement politique et social commence à naître au Bénin. Sinon, a priori, et jusque-là, les jeunes se désintéressent totalement de la question sociale, de la question politique. Au Bénin, on va dans le sens, si je peux avoir mon déjeuner, mon petit déjeuner, mon dîner, ça va tranquillement. Que l'État aille mal ou que les polices en mettent plein la poche sur le dos de tout le monde, on s'en fout carrément. Donc, c'est l'engagement politique et l'engagement civique est en train de naître peu à peu.
Parole de femme.
Parole de femme, parole d'homme, peut-être plutôt, hein, une nouvelle, on va dire, un petit peu cocasse. Je ne sais pas si on peut le dire, parce que bon, il y a des problèmes économiques en Afrique, partout. Mais récemment, le président égyptien a lancé un appel aux citoyens, et en particulier aux femmes, pour réduire la consommation d'eau et d'électricité, n'est-ce pas ? Parce que les femmes sont ménagères, on le comprend. On se souviendra d'ailleurs qu'au Venezuela, le président Nicolas Maduro avait lui aussi fait appel aux femmes en avril pour réduire la consommation d'électricité. Vanessa, écoutez-moi, je m'adresse à vous.
D'accord.
Je veux votre réaction, leur suggérant notamment de limiter l'usage du sèche-cheveux. Oui, c'est véridique. Hein.
Ok.
Alors, votre réaction par rapport à ça? De la part d'un président, hein. C'est sorti de la bouche d'un président. Est-ce que si ces dames n'écoutent pas le président vénézuélien, elles feront preuve de... Ça montrerait peut-être qu'elles seraient des mauvaises citoyennes.
Je ne pense pas. Okay. Parce que, en fait, s'il est question de limiter la consommation d'électricité ou d'eau, je crois que le ménage en prend en partie un grand coup. Parce que si les femmes, elles utilisent beaucoup d'électricité ou d'eau, c'est primairement pour les besoins du foyer. Donc, en passant, si je sèche mes cheveux 5 minutes une fois...
Mais il n'a pas dit qu'il ne leur a pas demandé d'arrêter d'utiliser le fer à repasser ou la machine à laver. Vous avez bien entendu, messieurs, n'est-ce pas?
Oui.
C'est-à-dire que madame continue de repasser le costume, les pantalons et de laver, mais en revanche, il faut qu'elle fasse attention à ses cheveux. C'est pas un peu sexiste, ça, non, comme propos?
Je
non
trouve.
A priori.
Quand même.
A priori.
Je voudrais savoir quelle est la consommation, à quel point est-ce que le sèche-cheveux consomme, s'il consomme plus que le fer à repasser. Je le comprendrais. Mais je ne crois pas que la question de...
C'est pauvre dame.
Je pense qu'il voulait par là dire que les femmes exagèrent un peu quelquefois.
Donc c'est un peu sexiste, non?
Non, mais ce
n'est
pas
du tout.
Si les femmes exagèrent,
non,
a priori.
Non, il faut juste utiliser le sèche-cheveux, mais d'une manière un peu modérée. Ne pas trop exagérer, en fait.
Oui, bon, on l'avait bien compris. On l'avait bien compris. C'est un autre sujet de débat. C'était juste une petite parenthèse. Tout à l'heure, vous avez parlé vous avez parlé de ces jeunes qui sont récupérés par les politiciens ou qui sont pas récupérés par les politiciens, mais à qui on donne cette image-là. Mais est-ce que, Vanessa, est-ce que les jeunes ne sont pas un petit peu désabusés aussi? Parce que c'est quand même dur, la vie en Afrique, non? On n'a pas de travail. Tout est difficile là-bas.
Et on dirait en partie. Pour ma part, en fait, plutôt que de chercher à condamner ces jeunes, j'ai plutôt été chercher à comprendre qu'est-ce qui les motive à être des pantins de la politique ou des hommes politiques pour un meilleur lendemain. Vous avez décrit la réalité en Afrique, c'est que il y a un problème de chômage, il y a un problème d'éducation, il y a un problème sanitaire, plein de choses en fait qui font que le jeune ne se retrouve juste pas. Alors plutôt que déjà j'ai pas un emploi, j'ai pas de centre d'intérêt réel dans ma vie. La seule opportunité qui s'offre à moi, c'est de rejoindre un parti politique où je sais qu'après chaque réunion, j'ai un père dième, ou qu'après chaque activité, j'ai un père dième, ou que en propulsant de l'avant le leader qui est en face de moi, j'ai une chance de me voir envoyer l'ascenseur en retour. Donc, c'est l'une des raisons qui peuvent pousser les jeunes, justement, à pouvoir s'accrocher à la politique, parce que, justement, leur environnement au quotidien ne leur donne pas d'autres moyens d'issue. Mais justement, c'est une erreur parce qu'on veut faire comprendre aux jeunes qu'il n'y a pas que la politique. Essayer de créer d'autres centres d'intérêt.
Noël, la jeunesse de la diaspora, selon vous, est-ce qu'elle est plus active au niveau de sa citoyenneté, ne serait-ce qu'aux États-Unis ou par rapport au pays d'origine, ou est-ce que c'est la même tendance?
Non, la jeunesse de la diaspora est très active. Mais malheureusement, nous, en tant que jeunes de la diaspora, nous ne pouvons pas contribuer positivement, si je peux le dire, au développement de nos pays, parce que les mécanismes, il n'y a pas de mécanismes qui nous permettent de faire ainsi. Donc, je souhaiterais que nos dirigeants établissent certains mécanismes pour faciliter l'apport de la diaspora au niveau de nos pays d'origine.
Il n'y a pas beaucoup de liens, de ponts entre le pays d'origine et,
non,
et
pas
selon
du
vous
tout, y a pas.
Ah bon,
pas.
Moi je croyais que c'était plutôt bien développé tous ces mécanismes-là, non? Ah, je vois que qu'Hermion, il rejoint votre point de vue, c'est ça?
Ouais. Oui, il n'y en a pas réellement, ou du moins sur le papier. On a des organisations, on a des institutions qui sont étiquetées, voilà, de la diaspora, mais les mécanismes qui leur permettent d'intervenir au pays, de mettre en place des transferts de connaissances, de compétences, de ressources et technologies n'existent pas. Ou a priori, dès que vous essayez, on vous bat à la route parce qu'on croit que vous essayez de vous frayer un chemin, soit vers la politique, voilà, c'est toujours comme ça, c'est toujours vu comme ça en Afrique. Donc il n'y a réellement pas de moyens pour eux, je comprends. je sais un peu, voilà, d'intervenir. Ceux qui le font personnellement, très très personnellement. Mmh. Or, on leur demande souvent de passer par le biais d'institutions. Donc, ceux qui les institutions de côté, généralement, arrivent à quand même intervenir chez eux. C'est-à-dire, mmh. en prenant en compte de façon très personnelle un jeune entrepreneur, par exemple, en investissant de façon très personnelle dans un domaine, par exemple. Voilà. Mais ce qu'ils demandent et ce vers quoi on doit aller, c'est l'institutionnalisation de ce transfert de compétences, de ce transfert de ressources-là, qui fait que les gens de la diaspora ont une place, un rôle évident à jouer dans la société et qu'on leur donne carrément une place. On avait un ministère en charge de cette affaire-là au Bénin, mais réellement, on ne sait pas sûr à quoi ça a servi. Or, si on a un ministère avec, on a un portefeuille qui est sous sa tutelle, la diaspora, on s'attend à ce que, qu'il y ait des actions, qu'il y ait des événements, qu'on voit, qu'on ait le sentiment, le réel sentiment, grâce à des preuves concrètes et à des chiffres, des faits, des statistiques, voilà, que cette diaspora-là travaille au pays. Mais malheureusement, non.
Alors, on a eu beaucoup de réactions par rapport à ce sujet hein, sur le Facebook de VOA Afrique. Alors, je lis quelques petits commentaires d'Ousmane Koné. Alors, Ousmane, il a dit « Arrêtez, toi, monsieur le journaliste, êtes-vous jeune ?» Alors, je ne sais pas à qui il s'adresse. Alors, si c'est à moi, c'est madame. Et puis, est-ce que je suis jeune ? 52 ans, oui, très jeune. Oui. 52 ans, pour moi, c'est très jeune. Je ne pourrais pas participer au programme Yali. Mais peut-être que dans quelques années, on va le remonter à 50 ans et plus, hein, parce que j'ai même vu que dans le sport...
Et puis la jeunesse, ce n'est pas seulement l'âge, c'est aussi l'esprit.
Mm-hmm. Ils sont gentils, merci. Alors, il y a Alphonse Mbouaki, justement, qui parle de vous d'une certaine manière. Il cite hein, les initiatives de Barack Obama incitant les jeunes à l'entrepreneuriat dans le programme Yali. Il dit qu'elles sont encourageantes pour que les jeunes possèdent des start-up, des PME. Ils contribueront au développement de leur pays, deviendront des citoyens actifs, dit-il. Mais beaucoup d'autres jeunes sont passifs, n'ont pas d'initiative, attendent la nourriture des parents. D'autres sont malheureusement tombés dans le gangstérisme, dit-il. Bon, voilà, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez. Il poursuit en disant « Beaucoup perdent le goût des études pour se lancer dans le sport ». Alors ça, c'est un autre sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il parle. Alors, il dit « Certains qui réussissent participent aux projets de développement de leur pays, comme le basketteur Mutombo Dikembe, qui a construit un grand hôpital à Kinshasa. Il contribue à des actions d'assistance des pauvres. » Bon, mais des exemples comme ça, on en a énormément en Afrique. Mais s'il faut attendre d'être riche, effectivement, et de réussir dans la vie pour pouvoir agir. Mais bon, moi, il y a une autre question que je voudrais poser. C'est peut-être pas facile non plus pour des jeunes qui n'ont déjà pas de travail, parce que finalement, la première action citoyenne, c'est de trouver du boulot, non ?
Eh oui, ça commence...
Oui, Noël ?
Oui, je pense qu'en tant que citoyen, il ne faut pas... En tant que jeune, il ne faut pas seulement attendre de l'État. Parce que nous avons pris, en Afrique, par exemple, nous avons pris une mauvaise habitude.
Oui, mais l'État a des comptes à rendre, tout de même.
Oui, mais non, l'État ne peut pas employer tout le monde. En tant que jeune, il faut avoir l'esprit ouvert.
Non, je ne parle pas au niveau emploi, oui, bien sûr.
Oui, il faut avoir l'esprit ouvert, l'esprit de création d'entreprise, l'esprit d'entrepreneuriat. Essayer de créer le travail pour les autres, en fait.
Mais ça, c'est très en vogue en Afrique, justement, cet esprit d'entrepreneuriat. On fait beaucoup appel aux jeunes, aux femmes, hein, n'oublions pas les femmes. On fait beaucoup appel aux femmes pour les petites entreprises, créer leurs entreprises. Et l'entrepreneuriat est très développé, en fait, en Afrique, parce que même l'économie, ce qu'on appelle l'économie informelle, c'est une forme d'entrepreneuriat, vraiment, à titre individuel. Hermion, vous m'aviez dit tout à l'heure, avant l'émission, que... vous m'aviez parlé des diplômés, c'est ça ?
Ouais.
Les diplômés, ça c'est un gros problème aussi en Afrique. Il y a beaucoup de diplômés à la sortie des concours, etc. Mais ça rejoint ce que dit Noël, il n'y a pas de travail, quoi.
Ouais. Je vais encore me consacrer à ce que je sais au
Bénin.
Oui,
bien sûr.
Donc, étant dans le secteur universitaire, les chiffres que j'ai sont alarmants. L'université d'Aboumekala est la plus grande du Bénin. Fournit près de 12 000 employés au secteur de l'emploi, 12 000 diplômés au secteur de l'emploi chaque année. À part cette université-là, nous avons des centres universitaires. Au même moment, l'État béninois n'offre pas plus de 500 opportunités d'emploi par an, pendant qu'ils sont 12 000 à sortir de la plus grande. Et de nombreuses encore à sortir d'autres universités.
Université, mais pas forcément école d'administration.
Pas forcément école d'administration. Okay. Mm-hmm. Donc, il y a un problème réel qui se pose au niveau de l'emploi
donc,
des jeunes.
Donc, on fait appel au privé aussi.
On fait appel au privé, évidemment.
Ben oui.
Donc, les solutions, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Donc, elles partent déjà des réformes qu'il faut faire dans notre secteur, dans le secteur de l'éducation au Bénin.
Oui.
Parce que, et je crois dans les autres pays aussi.
Un exemple,
c'est déjà que, généralement, ce qui se passe en Afrique, c'est quand vous avez le baccalauréat, vous allez à l'université, il n'y a pas de suivi. Le choix de votre filière de formation, il est fait soit selon le bon vouloir de votre papa qui vous veut médecin, et que vous êtes juriste ou avocat, ou selon un pur suivisme. Ah, tous mes amis sont allés en philosophie, tous mes amis sont allés en allemand.
Il y a un problème d'orientation.
Donc, il y a un problème d'orientation. Et au même moment, tous, la plupart étudient la même chose au Bénin. La faculté de droit est remplie, on n'a pas autant
oui,
de...
Oui, mais ça, c'est pas trop étonnant. Moi, je ne pense pas que ce soit propre à l'Afrique. À mon avis, c'est totalement universel. Moi, je me souviens que de mon temps, donc les jeunes filles, on les envoyait faire du secrétariat, on les envoyait... Et puis les hommes, on les envoyait dans d'autres matières, on va dire, un peu plus nobles, n'est-ce pas? Donc, en fait, non, c'est une manière de parler, tout le monde m'a bien compris. Et en fait, il y a toujours une sorte de courant... suivant les pays limitrophes qu'on a, on va prendre plutôt telle langue ou telle langue, etc. Donc, est-ce que c'est vraiment typiquement africain, ça, selon vous ?
Bon, vu la description que vous venez de nous faire, je pense que ça va au-delà du continent, mais justement, il est temps que ça change.
Ouais.
Parce que justement, comme il a dit, je vais rebondir dans le même sens, le système éducatif dans nos pays ne répond pas aux besoins du marché de l'emploi. On a besoin de faire des réformes au niveau éducatif, dans notre système éducatif, pour permettre que, même pas seulement au niveau du bac, dès que tu as le BPC, tu vas pour une formation qualifiante qui te permet d'être employé. Chez nous, par exemple, au Congo, on a beaucoup d'entreprises chinoises qui viennent, qui ont des marchés. Mais on aurait aimé qu'on ait des Congolais qualifiés, justement, même dans le bâtiment, dès la classe de 3e, qui puissent pouvoir bénéficier de ce marché d'emploi. Donc, les opportunités et la diversification de l'emploi. Et peut-être qu'il faudrait qu'on change le concept emploi. C'est pas forcément la bureaucratie, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et de l'emploi, il y en a. Mais seulement, on n'a pas les qualifications pour, ou on n'a pas les formations à court terme qui nous permettent d'être juste employable et de se prendre en
donc
charge.
Donc il faudrait plus d'écoles techniques au lieu
de formation, qualification. Ouais.
J'utiliserai les mots d'un collègue à nous, Al-Fousseni, qui est du Mali, qui dit l'Afrique a besoin actuellement de gens, de bâtisseurs.
Oui.
On a besoin de moins de personnes dans les bureaux et de plus de personnes qui sont sur les chantiers, qui sont sur les routes, qui construisent et qui bâtissent. Malheureusement, nous préparons tout ça à devenir des employés de bureau pendant qu'il y a très peu de gens qui sont dans la construction, qui sont dans la plomberie, alors que c'est là que se trouvent les vrais métiers de l'Afrique.
L'économie, l'agriculture. Oui.
L'agriculture.
Et je voulais ajouter aussi quelque chose. Je pense qu'il faut aussi utiliser la main-d'œuvre africaine parce qu'il y a des Africains qui sont qualifiés. Mais nos dirigeants préfèrent utiliser des étrangers ou bien des occidentaux.
Et il y a les jeunes africains
qui sont qualifiés, mais on ne les utilise pas.
Et là, au niveau des réformes, justement, il y a pas de loi qui donne priorité, comme c'est le cas dans pas mal de pays, finalement, dans certaines organisations. Non.
Pour ma part, je dirais que ces lois existent parce que dans tout État, il y a une politique nationale qui prend l'impulsion que la priorité de la main d'œuvre locale soit d'abord les nationaux. Mais peut-être que en termes de marché, c'est une grosse à supposer qu'il y ait un sous-traitant congolais. Je donne un exemple à côté d'un sous-traitant américain. Peut-être que le choix serait qu'on prenne le sous-traitant américain, mais bon, voilà.
Merci beaucoup Vanessa Metou, Hermion Judicaël Dokoui et Noël Karl Lebonzo pour votre participation dans le magazine au féminin de VOA Afrique. À très bientôt, au revoir.
Merci, au revoir.
Arrête.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you. Round two, you open your eyes. Flat on your back, you look to the sky. You rise. We'll be right back.